Alors, on s'était vu en 2014 pour l'album précédent, War of the Stone and Water Meets. Quoi de neuf depuis ?
Quoi de neuf ? Oula, ben, un nouvel album déjà. Deux nouveaux guitaristes qui sont passés dans le groupe depuis, donc départ de notre guitariste historique et fondateur.
Ouais, c'est lui que j'avais interviewé.
Ben oui. Oui, oui.
Ah, il était fondateur en plus, d'accord.
Et en fait, on était les membres fondateurs, donc lui et moi. Okay. Et donc, du coup, on avait enregistré les trois premiers albums avec lui, les trois quarts de cet album-là aussi. Ah. Et on a enregistré finalement, on a composé les trois quarts de l'album avec lui, et on a enregistré avec un guitariste qu'on avait recruté après son départ. Julien de Dear Blood, entre autres, qui a apporté un truc un peu rock'n'roll, un peu plus rock'n'roll à cet album-là.
Une divergence musicale ou...
C'était pas vraiment ça. Je crois qu'il avait plus très envie de se lancer dans des tournées, dans des concerts. Voilà.
La vie de rockstar, c'est fatigué.
Exactement, c'est ça. Ah. Bah, justement, les putes et la coke.
Bah, ouais,
il en avait fait le tour.
D'accord.
Il y avait une situation familiale aussi qui commençait à s'installer pour lui, qui voulait un petit peu plus approfondir. Donc,
vous l'avez vu arriver ou c'est un peu tombé
Non, ça a été progressif. On sentait qu'il y avait un peu moins d'envie. Et puis, bon, bah voilà. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de se défaire d'un gars avec qui on fait de la musique depuis une dizaine d'années, aussi bien amicalement que musicalement, on va dire. Mais la transition s'est bien faite parce qu'on a trouvé dans un premier temps un premier guitariste, donc Julien, qui a enregistré avec nous. Vraiment super impliqué dans le truc, très carré, très pro pendant l'enregistrement, qui malheureusement lui aussi a dû nous quitter pour des raisons perso, mais qui nous a mis en contact avec un autre guitariste avec qui on joue maintenant.
Donc vous êtes toujours 4 ou 5 ?
On est toujours 4.
Alors, sur des photos, on voit 5 ?
Eh bien, on a été 5 pendant 2 mois.
D'accord.
Et puis, c'était vraiment génial, mais malheureusement, ça n'a pas pu continuer. Donc là, on est avec Alex maintenant.
D'accord.
Et on est de nouveau 4. Mais vu comme il bosse, on peut dire qu'il bosse comme 2. Donc,
D'accord. Je lisais justement l'interview de 2014 avec mon copain Marie. Et il disait, voilà, on progresse, c'est cool. On a un line-up à peu près stable depuis 2006-2007. C'est cool, voilà. Bon, finalement, c'est même étrange que ça vienne de lui. Après, c'est vrai que s'il en vient plus là, il en vient plus là. Hein. Il n'y a pas de... Justement, pas de forcer.
Ouais, non, et puis Romaric, c'est un mec qui est très entier, très impulsif et qui fonctionne que s'il y a de l'envie. Et voilà, donc il a senti que s'il n'y avait plus ça, il est parti et franchement...
Tu disais, pendant 2 mois, donc vous avez été à 5 avec 2 guitaristes.
Ouais, peut-être un peu plus.
Mais... Ouais. Vous avez fait des concerts sur...
Non, on a toujours fait que des concerts à 4. Ça aurait été cool. C'est un projet qu'on garde en tête.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Comme on a de plus en plus d'éléments, comme des grattes acoustiques, de la slide guitare. Pourquoi pas un petit peu étoffer le truc en concert. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne à 4. On voit, on se presse pas.
Ok. Donc un des changements de line-up, un nouvel album, autre chose que tu voudrais. Parce que si on synthétise un peu toute cette période, donc enregistrement, enfin écriture, enregistrement, promo, concert, etc., toute cette période, War of the Stone and Water Meets, est-ce que tu as un souvenir ou un élément qui te revient à l'esprit immédiatement?
Immédiatement après la sortie de l'album War of the Stone and Water Meets, il y a eu une tournée de une dizaine de dates à peu près, qui a vraiment été excellente. On s'est vraiment, vraiment, vraiment éclaté, quoi. Avec Romaric, qui aussi s'est éclaté, malgré le fait qu'il soit parti peu de temps après, finalement. Mais ouais, le fait de partager un peu cet album, c'était la première fois qu'on faisait une tournée sur plusieurs dates comme ça.
Ça fait sortir du territoire ou...
Alors, on n'est pas pour cette tournée-là, mais on a fait plusieurs dates en Belgique. Alors, est-ce que c'est vraiment une sortie du territoire, la Belgique, je sais pas trop.
Bon, ami belge, je vous jurez.
Mais non, les vraies sorties du territoire qu'on a faites, c'était en Belgique, et c'était probablement parmi les meilleures dates qu'on a faites.
Donc, comme tu n'es pas Romaric, donc on le connaît moins, est-ce que tu peux être un peu présenté en tant que musicien, surtout entre guillemets, donc tes références ou voilà, quel est un peu ton background musical, qu'est-ce qui t'a fait te lancer, tes musiciens références
Donc moi je suis bassiste déjà, et puis ce qui m'a fait me lancer c'est d'écouter de la musique depuis que je suis gamin, où ma mère écoutait de la musique, toujours écouté de la musique. Et puis la découverte probablement de Metallica à l'âge de 9-10 ans. Et puis ouais, ce son de basse de Cliff Burton enfin, quand tu commences à écouter de la basse par Cliff Burton, bah, ça te met un peu le pied à l'étrier, quoi. Mm-hmm. Donc, en tant que bassiste, mes références, ça va être Cliff Burton, Trujillo. Bon, pour le coup, ils sont tous les deux avec Metallica, mais il y en a d'autres. Il y a les Claypool, il y a, le chanteur bassiste de Mastodon aussi, qui est vraiment un musicien que j'admire énormément. Et sinon, en termes de groupe, les qui ont façonné mon identité musicale, bon, Metallica évidemment, Mastodon un peu plus récemment, enfin depuis les années 2000, quoi. Et puis ouais, certains artistes français comme Brassens, Brel, voilà, ce genre de choses, quoi.
D'accord. Ouais. Justement, en termes techniques, en termes d'amateurs, toute la scène très technique, voilà, y compris tout ce qui est madcore ou en parallèle tout ce qui est progressif, John Mayer, etc., ça t'intéresse ou c'est pas ton école, mais bon.
Moi, il y a des trucs qui m'intéressent pas mal dans cette scène-là. Il y a par exemple un groupe que j'écoute beaucoup qui est Between the Buried and Me, où vraiment, ben, là, on peut dire qu'il y a un certain niveau technique. J'aime beaucoup Devin Townsend aussi. Après, je suis pas à la recherche de ça. Moi-même, je suis pas du tout apte à reproduire une quelconque ligne de basse de Between the Buried and Me. C'est pas du tout mon approche de la basse. Après voilà, j'aime bien Cliff Burton et Trujillo qui sont pas les derniers, hein, mais je suis plus fan du feeling en fait. Je vais être plus fan de Mastodon ou de Les Proust par exemple, où il y a un feeling qui est génial, même si les mecs sont super forts, mais où la démonstration est pas la matière première en fait.
Tu joues avec ou sans médiator?
Je joue les deux, mais le 90% du temps avec médiator.
Donc je regardais entre les deux albums, il y a eu 4 ans.
Ouais.
C'est un rythme naturel pour vous ou c'est parce qu'il y a eu changement de line-up, machin, différentes difficultés qui a fait que ça a un peu ralenti le process?
Le rythme naturel, c'est 2 voire 3 ans maximum, et effectivement là on a été ralenti par le changement de guitariste, clairement.
D'accord. Et donc bon, vous ne vous projetez pas forcément déjà sur la suite, mais voilà, 2020-2021, il faudra que la suite arrive, quoi.
Ouais, si elle peut arriver avant, ça serait pas mal, hein. On est avec un nouveau gratteux qui a des influences qui sont au moins aussi variées que les nôtres, donc ça augure des choses pas mal, je pense. Donc je pense qu'il a une vraie envie de composer. On va déjà se lancer dans des concerts et puis on verra ce qu'on fait après, mais ouais, l'envie de composer est toujours là.
Alors, quelle est la difficulté d'intégrer un nouveau particulièrement guitariste dans la banding, sachant que vous avez un côté un peu particulier, donc avec des influences donc plutôt américaines, blues, bluegrass, etc. Mm-hmm. Ce qui est pas, on trouve pas tous les coins de rue.
Ben justement, Alex est typiquement très fan de blues, donc pour le coup c'est génial, mais c'est pas franchement ce qui nous a attiré chez lui, c'est plutôt son une espèce de feeling naturel qui a fait que quand on a commencé à jouer avec lui, il y a une espèce de feeling qui est vraiment bien passé. Et il suffit de discuter avec lui pour voir que c'est un mec qui est fan de musique avant tout. Et nous, c'est tout ce qu'on recherche en fait. On n'est pas là à vouloir systématiquement poser des lignes d'harmonica ou des lignes de blues sur notre musique. On veut juste faire la musique la plus originale et la plus sincère possible, quoi. Et lui, il est vraiment là-dedans.
D'accord. Toujours c'est un petit à côté, donc Under Punishment Free sort toujours, c'est pas de publication,
ouais.
Comme le précédent
et comme les autres
et comme ceux d'avant. C'est une organisation, une structure qui vous convient ou?
Bah c'est ça nous convient parce que ce qu'ils nous proposent nous satisfait à peu près. Après bien entendu qu'on faut toujours être en demande de plus, mais bon.
Et alors façon de sans dévoiler le secret, vous avancez avec eux album par album ou?
Non, on avait
sur plusieurs disques.
On avait un contrat de 3 albums je crois. Et puis on lui a demandé s'il voulait continuer avec nous, il nous a dit pas de problème, donc en avant quoi.
Et donc vous lui fournissez le produit fini, boîte et cristal enregistré ou digipack enregistré, et lui il distribue ou il intervient plus?
C'est lui qui nous paye le pressage des albums.
D'accord. Ouais. Donc vous gérez tout ce qui est studio, vous livrez les masters finaux.
Voilà, on finance tout ce qui est enregistrement et
artwork machin. Et ouais. Lui, c'est lui qui nous fournit l'objet.
Alors pour cet album là, nous on a financé l'artwork et l'album précédent aussi. Mais les deux premiers albums, c'est lui qui avait financé leur tour. Donc après, c'est de la négociation. Là, il va probablement nous payer des décors de scène, des choses comme ça. Donc ça se négocie au fur et à mesure. Quoi.
Ok. Donc c'est un album qui fait 46 minutes pour 13 titres. Si donc les bons maths auront calculé que c'est des titres relativement courts, c'est calibré entre 2,5 et 4 cacahuètes. à quel point c'est important d'être court, direct et entre guillemets efficace, ou bah, vous laissez la créativité parler et puis vous arrivez entre 2,5 et 4 selon.
Oui, c'est plutôt ça en fait. On a un peu ce format de chanson depuis le début du groupe. Après, là sur cet album, il y a au moins 4 morceaux qui font 2 minutes, voire moins, qui sont des morceaux acoustiques, hein, qui peuvent être considérés comme des interludes. Et on a, par rapport aux albums précédents, peut-être un ou deux morceaux qui sont un peu plus longs, mais on n'est pas guidé par une durée particulière. En tout cas, c'est pas un objectif qu'on a.
D'accord, il n'y a pas une volonté de, je sais pas quoi, d'avoir des singles ou ce genre de choses.
Non, absolument pas.
Pour que l'énergie vous passe toute la journée.
Non, c'est peut-être même pas du tout ce qui nous motive. Ouais, je pense que je sais pas si ce serait considéré comme une réussite d'être diffusé sur énergie.
Je sais pas, entre minuit 30 et 1h peut-être. Ouais.
Ah, peut-être.
Et en général, quel est le processus de création d'un titre au sein du groupe, et à quel point ça a changé avec le départ le changement de liner?
Alors le processus de création classique, c'était un jam guitare-batterie, pardon, avec un riff de guitare et puis de la batterie qui se colle par-dessus. Après le départ de Romary, qui a fait que notre batteur, qui s'est offert aussi, nous a proposé des riffs de guitare qu'il avait un petit peu en stock, et on a bossé un peu là-dessus, chacun a amené ses éléments, donc c'était un travail un peu plus collégial pour le coup, qui était moins axé sur la guitare, et donc il y a au moins 3 titres qui ont été faits sans notre guitariste, et on attend de voir ce que vont donner les prochaines compos, parce qu'on n'en est pas encore là.
Pour que 13 titres apparaissent sur l'album, vous avez bien bossé combien de titres? Vous avez pris sur, je sais pas, 25 et vous avez pris 13?
Alors,
14, 13, 13, 13, enfin...
Jusque-là, on faisait plutôt 17 titres et on en gardait 12, 13. Et pour cet album, je crois qu'on a gardé tout ce qu'on avait.
D'accord.
On avait des pistes de morceaux qu'on a abandonnées, en fait, plutôt. Des espèces d'embryons ou des morceaux mornés entre guillemets quoi. On avait des riffs qui étaient intéressants mais qu'on n'arrivait pas à faire évoluer, donc plutôt que de faire un morceau complet qu'on abandonne, on a abandonné directement, s'est concentré vraiment sur un truc un peu efficace sur des. Voilà.
Et dans ton souvenir, il y a des éléments qui avaient été. Et qui avaient émergé à l'époque de Where the Stone and Water Meet, mais vous n'aviez pas trouvé la clé, ou vous êtes parti.
En fait, dès la sortie de Warstone and Water Meet, je crois qu'on avait déjà pas mal de riffs qui étaient en composition. Ouais.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de morceaux sur l'album qui datent de cette époque-là.
Si on revient sur les sessions d'enregistrement, sur combien de temps, quand vous avez bossé, et sur combien de temps?
Alors on a enregistré, l'enregistrement pur en studio, c'est ça doit être 6 semaines je crois.
Et toi par exemple, ta partie basse, tu prends 3 jours?
Non, moi j'ai pris une semaine à peu près, une semaine. Non, ça fait pas on va dire 5 demi-journées quoi, ouais, donc on va dire 2 jours et demi à peu près, juste pour la basse, mais après j'ai fait des prises chant parce que sur cet album on chante à 3. Le chanteur pour le coup c'est un peu plus long parce qu'il y a toutes les parties chantées, toutes les parties criées, voilà, il faut un peu gérer ça. La batterie c'est sur une semaine aussi, la guitare aussi, et après il y a pas mal d'éléments un petit peu exotiques comme la slide guitare, l'harmonica qui viennent se greffer là-dessus quoi. Plus des choses qu'on a enregistrées en dehors et qu'on a rapportées ensuite.
Alors j'ai envie de dire, on change pas une qui gagne, c'est à nouveau 6 cast, même studio. Voilà, vous avez été satisfait du précédent, donc vous vouliez poursuivre, ou c'était pour vous aussi rassurant de dire bah, c'est un environnement et le mec et vous le connectez, ou...
En fait, ouais, Francisca, c'était un peu, il fait un peu partie du groupe, quoi, comme beaucoup de groupes qui enregistrent chez lui, je pense. Je pense que ça fait 4 albums qu'on fait chez lui. Le mec nous connaît vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est un mec qui est multi ou polyinstrumentiste, je sais pas comment dire, qui chante, qui joue de la basse, qui fait de la guitare, qui fait de la batterie. Il a des tonnes de conseils à donner, il a du feeling à revendre comme pas possible. Donc, ouais, ce serait con de se priver de son aide, je pense.
Et est-ce que, d'une façon ou d'une autre, vous avez travaillé ou vous avez innové sur la façon d'enregistrer par rapport à l'album précédent?
Alors, les nouveautés, je crois que c'est au niveau de la batterie, je crois qu'il n'y avait pas de trig cette fois-ci. On a essayé d'avoir un son un peu plus organique peut-être, même si le son de la batterie naturelle d'Aurélien est un peu un peu machinal, enfin pas mécanique en tout cas. Mais moi j'avais un son de basse un petit peu plus distordu, un petit peu plus lourd. Qui avait été travaillé un peu en amont en résidence, et puis le son de grave de Julien, donc il était plus normal, qui était un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus organique aussi, un petit peu plus gros, un peu moins métal peut-être, plus axé sur le rock'n'roll et le stoner. Ouais,
et quand on entend en studio, vous avez le tout archi-maquetté, prêt à la note près, ou vous laissez une attitude de. Il manque des choses et vous dites on créera en studio.
Alors cette fois-ci on est arrivé avec un album pratiquement pré-maquetté en fait. Alors pas à la note près évidemment hein, parce qu'il y a toujours une place aux idées notamment de Francis. Et puis il y a des choses qui marchent et qui marchent pas, mais c'est la première fois qu'on est arrivé en studio avec un album aussi préparé en fait. On avait vraiment les 13 titres qui étaient déjà pré-maquettés. Ouais.
Alors question de Béotien, mais. J'ai l'impression que dans un groupe, il y a toujours une relation particulière entre bassiste et batteur. Vous assurez, vous, la base rythmique chaque fois. C'est de l'esprit ou c'est un sens au sein du groupe ?
Ah non, vraiment, je pense que dans tout groupe, la relation entre le batteur et le bassiste est forcément très profonde. Après, il se trouve qu'Aurélien et moi, on s'entend vraiment très bien. On a des goûts musicaux très en commun, on a beaucoup de choses qui nous réussissent, qui nous réunissent au niveau musical. Après oui, enfin, à part si t'es un bassiste héros et que tu joues de la basse comme un guitariste, enfin comme un bassiste prodigieux, je pense que la basse et la batterie sont totalement indissociables. Moi c'est ce que j'aime dans la basse, c'est qu'il y a cette approche rythmique et cette approche mélodique qui fait que c'est pas de la guitare. Quoi.
Voilà. Et donc entre guillemets, traditionnellement, vous avez enregistré batterie, basse, guitare, chant.
Alors, la batterie est enregistrée en premier avec une guitare témoin. Ensuite, la basse, je ne sais même plus
comment on disait. Je me suis toujours demandé, quand tu enregistres tes pistes de basse, t'as quoi dans les oreilles ?
Soit j'ai une guitare témoin, soit j'ai une guitare qui est déjà enregistrée. En tout cas, j'ai la batterie, ça c'est sûr. C'est l'élément qu'on enregistre en premier. Mais il y a toujours au moins une guitare témoin. Si c'est pas la guitare définitive, c'est au moins une guitare qui était faite pendant la prise de batterie. Quoi.
D'accord. Voilà.
Et le chant généralement vient en dernier.
Ok. Autre élément important de l'album, le visuel. Donc de mémoire, le précédent, ça avait été Strychnine qui l'avait fait.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'est Cephalospinal Design.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà.
Alors avec une philosophie assez différente, le précédent c'était un peu, on voyait bien l'idée, les chaînes, le géant, mais il y avait un côté un peu froid, autant là il y a un côté plus,
organique.
Ouais,
c'était un peu la volonté en fait. En fait c'est un mec qui avait fait la pochette du deuxième groupe de batteurs, qui est Pyrosis. On avait trouvé ça très chouette et on lui avait demandé de bosser avec nous, de faire un truc justement un petit peu organique en lien avec le titre de l'album. Et il nous a proposé une première idée qui n'était pas celle qu'on a retenue, et ensuite il nous a proposé donc des croquis, mais vraiment des croquis sur tablette graphique, tu vois, des trucs avec juste trois traits de crayon. Et nous, jusque-là, on nous avait proposé des travaux assez élaborés, donc c'était compliqué. Mais on a senti une espèce de truc justement qui allait vers ce sentiment un peu d'organique, un peu naturel, et puis.
Est-ce que on se demande, est-ce que c'est un détail d'un truc plus grand ou c'est le truc tout
c'est... Non, c'est en fait le truc à la base c'était juste une main avec une racine qui l'entourait. Et on lui a demandé de développer ce côté organique justement jusqu'à la police en fait qui est faite un peu dans un espèce de truc comme si c'était une sculpture en bois. Et jusqu'à ce qu'on ait les dernières teintes de couleur, moi-même, personnellement, j'étais pas forcément emballé, je savais pas trop où on allait, quoi, parce que c'était la première fois qu'on bossait comme ça. Et au final, je trouve que c'est une des plus belles pochettes qu'on a eues. Elle est vraiment, je la trouve vraiment magnifique.
Et le logo, justement, il est très travaillé, il s'enroule autour de la main. Il apparaissait avant ou après, si je peux pas dire, sur des t-shirts déjà, où vous aviez.
Alors, on avait déjà un t-shirt avec cette forme de logo, voilà, en tout cas, ouais. Qui avait été fait par Auriane Mazot, qui est une artiste qui a fait l'école Boule, qui est une artiste absolument géniale, qui s'appelle Capitaine Corbeau, c'est son pseudo. Et donc elle avait fait une espèce de tête en fait,
sa femme.
Voilà. Avec une police autour, un truc vraiment très art déco en fait.
Comme quoi ça t'a bien plu pour te le mettre sur le. Pour
je l'ai sur mon bras et le batteur là sur la. Sur le,
voilà,
sur
donc ça a bien plu au groupe.
Ça nous a beaucoup plu et du coup on s'est dit que ben voilà, on allait réunir les deux artistes sur la même image et puis donc du coup on a la police dessinée par Oriane et la main dessinée par Mirfling donc.
Ça a été un peu Morphling non sur ce tatouage là.
Celui-ci il pique un peu ouais.
Oui. T'as déjà fait un peu film quoi.
C'est ça.
Toujours dans le domaine des visuels. On sentait bien en 2014 que le média Cube Vidéo vous intéressait, vous aviez beaucoup investi avec un très beau résultat sur The Sound of Lies. Il y a quoi dans les tuyaux pour sur Facebook on voit des trucs mais on ne sait pas trop.
Tu veux dire au niveau des moyens?
Ouais, non au niveau de il y a un clip qui arrive ou qui va arriver.
Il y a un clip qui vient d'être diffusé lundi je crois. Ouais, lundi. Donc c'est très récent. Et bien qui suit un peu l'idée du Sound of Lies qu'on avait fait pour l'album précédent. Toujours autour de ces espèces de créatures un peu esclaves qui sont dans les bois, qui errent, comme ça. C'est un peu une continuité sans être vraiment une suite directe, mais on a bossé avec la même équipe.
Un jour, deux jours
Ça s'est fait sur 4 jours, quoi, cette fois-ci. Avec des mecs super impliqués, qu'on a payé à coups de bière et de pâtes. Donc des mecs vraiment, vraiment, vraiment plus soucieux du.
Et alors maintenant vous pouvez être content, fier, etc. Mais à la fin du 4 jours, vous n'avez pas juste envie de hurler parce que c'est épuisant, vous faites 250 000 fois les mêmes trucs.
En fait, c'est ce qui est vraiment, vraiment cool avec ce groupe et avec les mecs qui bossent avec nous, c'est qu'on n'est on est pas trop là-dedans. En fait, on est jamais vraiment blasé, quoi. On finit le clip et la seule envie qu'on a, c'est d'en faire un, quoi.
D'accord. Et donc il y a d'autres choses dans les tuyaux ou...
Il y a ce clip-là qui est sorti, on a un autre clip unique qui est
monté à
Dying Days.
Dying Days, ok.
Donc il y a un clip assez classique, enfin voilà, assez metal. Et on a clippé aussi un autre morceau qui est Blue Drum, qui est un morceau où il n'y a que de la voix et de la batterie dessus, qu'on a monté nous-mêmes pour le coup. Et donc on est assez content aussi. Et c'est un truc qu'on va sûrement essayer de développer un petit peu dans le futur.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce qui arrive là dans les semaines et les mois qui viennent?
Dans les semaines directement, il y a le concert à la Boule Noire le 23 mars avec Pimbouz in the Nursery et MF Crew qui va être un putain de concert.
C'est un concert de release quoi.
Ça va être la release party, mais ça va être aussi l'occasion de jouer surtout à la Boule Noire qui est une salle qu'on adore. Avec des mecs qu'on adore, Pitbull de Nursery, avec qui on a déjà joué plus ou moins directement à travers leur groupe différent. Et on est en partenariat avec Music Records qui fait notre booking et qui nous a annoncé pas mal de trucs assez prometteurs dont on ne peut pas franchement parler puisque rien n'est acté.
C'est assez nouveau que vous bossiez avec eux, non?
Ouais, ça fait quelques mois en fait, depuis le mois de septembre au top peut-être.
D'accord, c'est aussi pour vous une volonté slash espoir de passer un step.
Ouais, ça serait vraiment bien. On avait jusque-là bossé avec Karine de Sigma Events, Karine Vincent, non, qui nous aimait bien, qui nous portait, qui avait pas mal de contacts et qui nous avait mis en lien avec Neil Leveugle, qui nous avait fait la précédente tournée. Et là, on s'est dit qu'on allait engager quelqu'un. Bon, c'était vraiment le taf à plein temps pour essayer de nous trouver des dates, quoi. Donc, on y bosse.
D'accord. Et une dernière question avant un petit quiz, mais plus sur tes goûts, donc il n'y a pas de bonne réponse. De ton point de vue, comment jugerais-tu ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur la scène métal francilienne, parisienne, je ne sais pas combien?
Alors c'est compliqué à dire parce que on a été confronté un petit peu à tous les niveaux de cette scène-là, puisque quand on a commencé en 2000. Les premiers concerts qu'on a fait, ça devait être en 2005, on va dire. On a vraiment fait tous les squats de l'époque, genre l'alternation, l'espace blues, puis plein de salles vraiment un peu miteuses avec des groupes comme Esaguerria à l'époque, Freud, ou enfin voilà, des mecs Slavery, des gars qui existent ou qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis maintenant, on va jouer avec les Blues in the Nursery ou des mecs un peu plus costauds, quoi. J'ai pas trop d'avis, moi je suis pas franchement j'assiste pas à beaucoup beaucoup de concerts.
Tu côtoies régulièrement
Je passe pas forcément beaucoup de temps dans les bars comme les Furieux, comme le Feel Good par exemple. Je viens voir quelques concerts, mais l'essentiel de mes potes sont pas forcément des métalleux. Et j'avoue que je, par rapport à notre longévité, je me dis que j'aurais peut-être dû passer peut-être un peu plus de temps dans les bars à me faire des contacts, et peut-être qu'on aurait eu plus de dettes aujourd'hui en faisant un peu de lèche, mais bon.
Ou pas,
mais bon, peu importe. En tout cas,
super.
J'ai pas d'avis.
Et donc, juste pour terminer, quelques questions sur tes goûts, musicaux. Chanson préférée de tous les temps?
Ma chanson préférée de tous les temps?
Ouais. Facile comme question.
C'est très très facile, bravo.
Je sais pas. Un album préféré.
Je vais dire Orion, de Metallica, peut-être.
D'accord.
Ouais.
C'est pas très intéressant.
Ça
peut être plus rigolo. Titre de votre discographie que tu aimes le moins?
Alors là, mais...
Le truc, c'est que tu joues plus jamais, c'est pas grave.
Oui, je vais prendre un livre très vieux.
Voilà.
One Day to Forget.
Et question du viseur, mais qui donc là c'est pas tes goûts. Sur certains titres qui reviennent régulièrement, qui sont des impératifs pour vous, est-ce que par rapport à nos histoires il y a quelques années, t'as modifié tes lignes de basse, ou est-ce que régulièrement tu modifies tes lignes de basse, ou voilà, à quel niveau tu fais évoluer ton jeu?
Alors, déjà en fonction des guitaristes avec qui on joue, parce que forcément sur les titres qu'on joue en live. Il y a des idées qui viennent se greffer en fonction des guitaristes qui sont là, et aussi il y a le fait qu'on chante tous maintenant sur scène, et forcément il y a des fois où je faisais des trucs un petit peu plus alambiqués, et maintenant chantant j'essaie de faire plus heureux, quoi.
D'accord.
Mais sinon dans les titres j'ai quand même fait évoluer quelques lignes de basse pour qu'elles soient un peu plus intéressantes en live.
Ok, si t'as le choix d'un invité pour le cinquième album, le prochain,
mort ou vivant? Un musicien?
Ouais, mort ou vivant. Open bar.
Le chanteur bassiste de Mastodon.
D'accord. Et pour terminer, ton album de l'année 2017?
Le Malinia de Negros.
Ok.
Ex aequo avec un Power of Sound de Mastodon.
D'accord. Dans les deux, il y a un côté progressif, dans le côté un peu touffu, un peu je pars dans tous les sens.
C'est ça. Mais
pourtant, et alors, si je peux me permettre, ça apparaît très peu dans
Red Morning. Ah oui, on n'est pas du tout un groupe de prog, c'est sûr.
C'est ça.
Mais moi, ce que j'adore surtout dans les pros ou Mastodon, c'est que c'est des mecs qui en ont énormément sous le pied, mais qui servent avant tout la musique, quoi. Et les pros, c'est vraiment typiquement le groupe qui a commencé à faire des albums de prog ultra chialés. Il y en avait dans tous les sens, et c'est vraiment des albums que j'écoute pas du tout. Et le dernier album de Les Prousses, qui pour moi est le plus épuré, le plus simple et le plus intéressant, parce que les mecs mettent vraiment à profit leur talent pour faire de la vraie musique. Et Mastodon, c'est pareil.
D'accord. Merci à toi.
Merci à toi, c'est
un plaisir.